Chapitre 16. Une découverte et un enlèvement. Il n'y avait pas qu'Élisabeth parmi la société qui accompagnait Mistress Hubert à son entrée dans la salle de bal qui fut préoccupée. Mistress Stephenson l'était aussi. Depuis sa rencontre avec Mistress O'Donagough chez M. Willoughby, cette petite femme à l'esprit actif n'avait eu qu'une idée fixe, obtenir quelques éclaircissements sur la source d'où provenait cette opulence si nouvellement acquise. Mistress Stephenson possédait une femme de chambre fine et intelligente, de plus un impertinent petit groom français qui, s'il entrevoyait la possibilité de découvrir derrière une planche soit quelque méchanceté, soit quelque avantage, était capable de passer à travers comme une véritable vrille. Avec de tels auxiliaires, tous deux dévoués à sa personne et prêts à lui obéir en tout, il n'était peut-être pas très extraordinaire qu'elle eût réussi à réunir quelques points lumineux, augmentant encore la conviction où elle était de l'erreur de son père quand il prétendait que les O'Donagough avaient dû hériter d'une grande fortune, chose qui avait toujours été plus désirable que probable. Avec un excellent cœur, Nora avait un peu de cette tendance qui nous porte quelquefois à nous mêler des affaires de ceux que nous aimons avec plus d'ardeur que de bon sens. La plupart des femmes ayant, comme elles, un mari qu'elles aiment et en qui elles croient, auraient commencé par lui conter leurs soupçons, s'en remettant à lui pour mener à bien la tâche délicate de découvrir si l'homme auquel elle désirait voir sa nièce unie n'était pas indigne de ce bonheur, soit par son inconstance, soit par sa passion pour le jeu. Mais non, Mistress Stephenson préférait de beaucoup manœuvrer la chose elle-même, et à l'exception de son groom et de sa femme de chambre, aucun être vivant ne soupçonnait ce qu'elle avait en tête. Seymour et Élisabeth avaient stationné un instant, debout l'un près de l'autre, causant sur les airs variés d'un quadrille, en attendant de faire un tour de valse, puis, peu de temps après, ils s'étaient lancés dans le tourbillon. Mistress Stephenson, elle aussi, s'était mise à circuler, allant et venant d'un bout de la salle à l'autre, puis d'un côté, puis de l'autre, dans le but de s'assurer par elle-même que les jeunes gens étaient redevenus l'un pour l'autre ce qu'autrefois elle les avait vus être avec tant de satisfaction. Elle ne fut pas longtemps à se sentir complètement rassurée sur ce point. Alors, se voyant absolument séparée de tout son monde, elle eut l'idée d'entrer dans le salon où l'on jouait pour y faire ses observations sans craindre d'être interrompue par personne. Grâce à la foule qui était parvenue en ce moment à son point culminant, nul de la société ne s'aperçut de sa manœuvre. Son mari n'était pas là. Depuis longtemps, M. O'Donagough, ayant reconnu que Frédéric n'était pas ce qui s'appelle un joueur, avait ralenti ses relations avec lui à mesure qu'il les étendait vers les autres hommes, amateurs passionnés des cartes. Aussi, d'un mutuel accord, avait-on laissé s'éteindre la connaissance commencée à Brighton et qui, une fois revenus à Londres, eût été un grand ennui. Donc, sans rencontrer aucun obstacle, l'entreprenante Nora traversa le second salon et entra dans le troisième, où elle se trouva bientôt à quelques pas de M. O'Donagough, de M. Rolandson, de leur petite table et de leur tranquille partie de piquet. Elle ne fut pas très surprise de voir une grande quantité d'or sur la table, mais ce qui la surprit davantage, ce fut l'air simple du jeune gentleman qui gagnait toutes les parties, tandis que son adversaire ne cessait de perdre, sans manifester le moindre mécontentement ni la moindre émotion. À côté de M. Rolandson et faisant face à M. O'Donagough, se tenait debout M. Foscroft. Ce gentleman, étant absolument étranger à Mistress Stephenson, n'aurait attiré en rien son attention si elle n'avait remarqué qu'il souriait légèrement chaque fois que le plus âgé des deux joueurs comptait une poignée de souverains au plus jeune, ce qu'il cherchait évidemment à dissimuler en passant sa main sur sa bouche. Par la direction des yeux de chacun d'eux, elle était parfaitement sûre qu'ils avaient la clé de ce sourire, quoiqu'on ne pût voir sur les traits réguliers de M. O'Donagough la plus légère marque de connivence. Elle venait précisément de remarquer ce manège trois fois de suite et une notion vague de ce qui se passait commençait à germer dans son esprit lorsqu'elle sentit qu'on lui touchait le bras. Elle se retourna et vit Elizabeth Peters qui, tout en regardant ardemment M. O'Donaghan, sollicitait son attention avec plus de familiarité que ne l'autorisait le degré de leur connaissance. « Mille pardons, Miss Stephenson, mais seriez-vous assez bonne pour me dire le nom de ce monsieur, là, en face de nous ?»« C'est le maître de la maison, M. O'Donaghan. » « O'Donaghan ?» répéta Miss Peters tout bas et avec précaution. « En vérité, Miss Stephenson, ce n'est pas là son véritable nom. » En d'autres circonstances, une contradiction si crûment formulée de la part d'une personne qu'elle connaissait à peine eût probablement provoqué chez Miss Stephenson un regard courroucé et rien de plus. Mais dans la situation d'esprit où elle se trouvait, rien ne pouvait plus sûrement commander son attention. Elle passa immédiatement son bras sous celui de Miss Peters et, l'entraînant doucement au travers de la foule, elle l'attira sur le palier de l'escalier où, comparativement, elles étaient seules. Là, après avoir monté une ou deux marches de l'étage supérieur, afin d'être encore plus tranquille, Miss Stephenson se tourna vers sa compagne étonnée, en lui disant de l'air le plus anxieux « Miss Peters, pour l'amour de Dieu, dites-moi ce que signifient les paroles que vous venez de prononcer. » « Mais, Miss Stephenson, cela veut dire que, à moins que je ne me trompe de la façon la plus grossière, ce monsieur que vous dites d'être le maître de la maison n'est autre que le Major Allen, un individu que j'ai parfaitement connu à Clifton il y a une vingtaine d'années. » Non, jamais femme en train de composer un roman ou d'éclaircir un mystère ne reçut une communication aussi opportune, aussi en rapport avec sa pensée. « Ma chère Miss Peters, s'écria-t-elle, saisissant la main de sa compagne et la serrant ardemment. « Êtes-vous sûre, êtes-vous convaincue de la vérité de ce que vous venez de dire là ? Ce n'est pas une vaine curiosité qui me fait parler ainsi. Votre réponse est d'une grande importance. » « En vérité, Miss Stephenson, j'en suis parfaitement sûre. Je ne le dirai pas sans cela. » « Mais comment s'expliquer que personne d'autre ne l'ait reconnu ? Est-ce qu'Agnès ne le connaissait pas, ce Major Allen ? Et je me rappelle aussi avoir entendu M. Stephenson et le général parler de lui à propos de cette même saison à Clifton, dans des termes qui prouvaient qu'il l'avait fort bien connu. Vraiment, Miss Peters, cela me semble impossible. » « Ce n'est pas impossible du tout, Miss Stephenson, répliqua Elizabeth Peters. « Je me rappelle que ni Agnès, ni aucun des messieurs que vous nommez là, ne lui ont jamais parlé, car c'était toujours à moi qu'il s'adressait. J'étais très jeune alors, et je n'ai découvert que longtemps après combien il était loin d'être aussi comme il faut qu'il voulait le faire croire. Mais il était surtout assidu auprès de ma tante Barnabé, et certainement, il lui faisait la cour, quoique cela n'ait abouti à rien à cette époque. Allez, vous pouvez m'en croire, je me rappelle chacun de ses traits, et même en particulier, une verrue qu'il a sur la tempe gauche, c'est probablement pour la cacher qu'il porte cette perruque. Tout à l'heure, pendant que j'étais en face de lui, il avait très chaud, il a voulu s'essuyer avec son mouchoir et a reculé ses cheveux, ce qui m'a permis de voir parfaitement la verrue. J'étais déjà absolument sûre que c'était lui, mais naturellement, depuis cet instant, je ne puis conserver un doute. » Et il se fait appeler Allen O'Donaghan, s'exclama le plus bas possible Miss Stephenson, qui se sentait tout d'un coup convaincue. Il n'y eut jamais rien d'aussi heureux que notre rencontre ici ce soir, ma chère Miss Peters. Vous ne refuserez pas, j'en suis sûre, de m'assister dans le projet de démasquer cet homme abominable. Agir ainsi serait une bonne action, quand même on n'aurait aucun motif personnel, mais moi j'en ai, et plusieurs. Voulez-vous donc bien rentrer avec moi dans la salle de jeu ? Vous resterez auprès de moi, et sans attirer l'attention de qui que ce soit, même par un chuchotement, nous surveillerons ensemble ce qui va se passer. Vous avez déjà prouvé que vous aviez les yeux fins, moi je ne suis pas tout à fait aveugle, et avec votre aide, complétée par celle de mon lorgnon, j'espère beaucoup découvrir quelque chose qui en vaudra la peine. » Excessivement flattée de se trouver un personnage plus important que d'habitude, Elizabeth Peters se montra prête à faire tout ce que Miss Stephenson désirait. Et, se reprenant par le bras, les deux femmes rentrèrent dans le salon où l'on jouait. Tandis qu'elles parvenaient difficilement à reprendre leur poste près de la table du piquet, les mots « descendre au souper » avait commencé à circuler et l'impulsion vers la porte se faisait déjà sentir parmi la foule. Pressant silencieusement le bras de sa compagne, Mistress Stephenson recula très habilement, comme si la foule l'entraînait, et se cacha, ainsi que Miss Peters, dans un renfoncement orné de draperies qui contenait un sofa et qui pouvait, à condition de laisser tomber les rideaux, simuler une seconde fenêtre, chose qui aurait donné à la chambre, à ses biscornus, une apparence de régularité. Pendant les longues heures consacrées par Mistress O'Donoghue à conférer avec sa fidèle Louisa Perkins sur la meilleure manière d'orner ses salles splendides, rien ne lui avait donné autant de peine que cet embarrassant recoin. L'opinion de Miss Louisa avait été que l'effet général produit par l'enfilade de ces trois salons serait bien plus complet si le dernier des trois avait l'air d'avoir deux belles fenêtres, tandis que Mistress O'Donoghue, se rappelant peut-être les beaux jours de Silverton et le capitaine Tate, avait soutenu que rien n'était plus séduisant, plus attrayant que ce sofa entouré du feston des draperies. Aussi, pour en finir, l'aimable épouse s'était-elle écriée « Il faut soumettre la chose à Donny !» Immédiatement, Miss Louisa avait été dépêchée vers la bibliothèque pour prier le maître de la maison de venir donner son avis. « Eh bien, monsieur Audet, qu'en dites-vous » demanda l'épouse après avoir bien établi les pour et les contre. « Il vaut infiniment mieux laisser à cet endroit l'apparence d'une croisée, ma chère, » répondit-il. « Je ne tiens pas du tout à ce que l'on soit tenté, comme vous dites, de s'asseoir sur ce sofa. Il est impossible de jouer tranquillement quand il y a du monde dans la chambre. Et, quoique je sache bien qu'au commencement de la soirée, la foule nous envahira, je suis déterminée à avoir au moins une heure ou deux de tranquillité après le souper. Vous pouvez bien compter que je fermerai la porte à clé. » « C'est absolument comme vous voudrez, mon cher, » lui répondit gaiement sa femme. « À ce moment-là, tout le monde aura vu que nous avons trois salons, le reste m'est bien égal. »« Fort bien, c'est convenu alors. Faites que ceci ressemble le plus possible à une fenêtre. » Ainsi se termina la discussion, et Mistress O'Donoghue, en femme obéissante, disposa les rideaux de la croisée et ceux du renfoncement avec une exacte similitude. Mais il advint qu'une demi-heure environ avant le moment où le monde devait arriver, tandis que M. O'Donoghue était dans la bibliothèque avec Foscroft, auquel il donnait ses dernières instructions, et les deux demoiselles Perkins avec Patty, posant les dernières épingles, faisant les dernières retouches, la maîtresse de la maison, au comble du ravissement, eut l'idée de charmer ses moments d'attente en se promenant dans ses salons, poussant une banquette par-ci, tirant une chaise par-là, dans l'espoir d'atteindre la perfection. Durant le cours de ses promenades répétées, il lui vint à l'idée que la fenêtre véritable et celle qui était figurée auraient une tournure bien plus élégante si on relevait légèrement les rideaux. De cette façon, on pourrait apercevoir du côté de la vraie croisée un charmant store peint qu'elle admirait beaucoup et de l'autre une profondeur qui augmentait encore l'étendue des appartements dont elle était si fière. Ce fut sa dernière retouche, car les trois dames, descendant du premier, entrèrent immédiatement après, et les exclamations admiratives qu'elles échangèrent, les demoiselles Perkins sur la personne de Mistress O'Donoghue et sur ses salons, Mistress O'Donoghue sur les toilettes de ces demoiselles, ne laissèrent le temps de retoucher à rien avant l'arrivée de la foule des invités. Ce fut donc dans ce trou noir que Mistress Stephenson et son aide conspiratrice se glissèrent inaperçus pendant l'intéressant moment où, la foule se dirigeant vers la salle du souper, les joueurs de piquet restèrent seuls. Légèrement, du bout du doigt, elles avaient fait retomber l'un des rideaux. Elles s'assirent derrière cet abri, jouissant en plein, par la petite élévation de l'autre, de la vue de ceux dont elles voulaient surveiller les actions. Elles entendirent le désir qu'exprima M. Rawlinson d'aller souper et la réponse de M. O'Donoghue. Elles virent le plateau bien garni, apporté par l'intelligent Richardson. Elles virent M. Foxcroft, le seul individu demeuré dans la chambre hors des joueurs et elle-même, s'en aller tranquillement donner un tour de clé à la porte et se charger des fonctions de sommelier avec tant d'entrain qu'un flacon de champagne avait été vidé et le second entamé, avant qu'il eût lui-même essayé de manger ou de boire quoi que ce soit. M. O'Donagho non plus ne prenait guère part au festin. Il prétendait être mis hors de lui par ses infernales pertes. Il jurait n'avoir jamais rencontré quelqu'un d'une force pareille et déclarait que, dût-il passer toute la nuit et perdre jusqu'à son dernier shilling, il n'abandonnerait pas la partie. M. Ronaldson, dont la tête n'était guère plus capable de supporter avec calme la veine étonnante qui le favorisait que les fumées d'un bon vin, commençait à devenir très bavard. O'Donagho, s'apercevant que, pour le moment du moins, le champagne avait produit tout ce qu'on attendait de lui, rappela l'attention du jeune homme sur la ferme qu'il considérait comme la principale de la fête. « Maintenant, Ronaldson, c'est encore pour vous. Jouons quitte ou double, voulez-vous ? Doublons le montant de mes damnées pertes, et que je gagne ou que je perde, nous serons quittes. Cela vous va-t-il ? Certainement, répondit le jeune homme avec un rire joyeux. Pour qui me prenez-vous ? Pour un très honnête garçon, Ronaldson, qui, voyant qu'il a eu jusqu'à présent tous les avantages, ne demande pas mieux que de laisser à son adversaire une chance contre le mauvais sort. Mettez donc ce plateau sur l'autre table, Foxcroft. On ne jouera plus au whist ce soir, je suppose. Foxcroft obéit. Puis il vint se placer, comme auparavant, derrière Ronaldson, précisément en face de O'Donagho. Ce fut alors que Mistress Stephenson, si vivement intéressée par la scène qui se déroulait sous ses yeux qu'elle en oubliait la fâcheuse position où elle se trouvait, ce fut alors, dis-je, et seulement alors, qu'elle comprit bien réellement de quelle nature étaient les signes que faisait M. Foxcroft à M. O'Donagho. Pour Ronaldson, à moins de faire volte-face sur sa chaise, il était de toute impossibilité qu'il se doutât de ce qui se passait derrière lui, tandis que pas un clignement d'œil, pas un mouvement de doigt de la part de Foxcroft ne pouvait échapper à O'Donagho, et cela si distinctement qu'il suffisait simplement pour celui-ci de lever la tête pour connaître tout ce que l'autre voulait lui faire savoir. À cet instant, aux yeux de Mistress Stephenson, le succès de M. O'Donagho était tellement certain qu'elle se fût sentie disposée, comme elle le dit plus tard, à mettre dans l'enjeu sa propre vie, voire même celle de l'un de ses enfants. En vérité, il n'y aurait pas eu grand risque à courir. Le résultat, ainsi qu'on pouvait s'y attendre, fut favorable à M. O'Donagho, qui, aussitôt la chose accomplie, dit avec un grand sang-froid « Eh bien maintenant, Ronaldson, si vous voulez, nous allons recommencer de plus belle. J'ai perdu 9 fois sur 12, mais je ne veux pas amener mon pavillon. Si je perds, ma propriété du Devonshire paiera pour moi, et je suis tout disposé à recommencer le jeu de la même façon. Voici ce que je compte faire, car je ne puis supporter la pensée de reculer parce que j'ai trouvé un joueur plus fort que moi. Je vous propose 6 parties. Écrivez cela, Foxcroft. Je vous propose 6 parties de suite, à quitte ou double, et plutôt que vous laisser croire à ma couardise, je crois que j'en ferai 12. Mais j'imagine que nous en aurons assez avec 6, et que tout le monde alors étant parti, nous ne serons pas fâchés d'aller nous coucher. Voyons, ça y est-il ? Le pauvre Ronaldson, qui aux heures matinales de la journée eût été à peine en état d'apprécier la nature de la proposition qu'on lui faisait, était en ce moment aussi peu capable de cet effort intellectuel que s'il n'avait eu qu'un lustre au lieu des 5 qu'il comptait. Avec un rire qui touchait presque à celui de l'imbécilité, il répéta en se frottant les mains « Parfait, parfait, parfait !» Les parties recommencèrent, se terminant naturellement les unes après les autres, comme s'étaient terminées celles où M. O'Donagho avait tout regagné. La bourse du jeune homme, son portefeuille bien rempli étant épuisé, Foxcroft était allé chercher ce qu'il faut pour écrire, et Ronaldson, à moitié dégrisé, à moitié hébété, signait, signait, après chaque partie, si bien qu'en peu de temps, il se trouva débiteur d'une somme énorme. La position de Mistress Stephenson était devenue excessivement pénible. Quoique parfaitement convaincue du caractère infamant de la transaction qu'elle avait sous les yeux, elle sentait croître son embarras et diminuer son courage devant la crainte de ne pouvoir prouver le fait assez clairement à d'autres personnes pour réussir à exonérer ce pauvre garçon des résultats de sa folie. D'une autre part, si elle ne disait rien, elle se rendait parfaitement compte qu'elle devenait complice de la ruine de cette infortunée victime. Un instant de calcul suffit pour lui démontrer que si le taux monstrueux auquel s'élevait l'enjeu était encore doublé une ou deux fois avant l'accomplissement du marché qu'elle avait entendu conclure, le total représenterait une fort grosse fortune. Quant à voir tourner la chance, à la manière dont le jeu était dirigé, il n'y fallait pas songer, de sorte que si ses craintes étaient réellement fondées, à moins d'avoir le courage d'intervenir, elle était condamnée à laisser se passer sous ses yeux un immense vol qu'elle aurait pu empêcher. Elle avait été tellement absorbée par les événements de la table de jeu depuis son introduction dans le recoin avec sa compagne qu'elle ne s'était plus préoccupée de ce qui se passait dans les autres pièces. Quand elle vit que la quatrième partie s'avançait vers sa conclusion, elle se mit à écouter attentivement et ne fut pas longue à se convaincre que bien que la musique durât encore, la société s'en allait. Plusieurs noms, dont on appelait les gens dans l'escalier, parvinrent à son oreille en dépit des portes fermées. L'idée que sa famille serait horriblement inquiète à son endroit si elle tardait davantage et qu'elle, ainsi que Miss Peters, allait se trouver dans une situation cruellement embarrassante, lui rendit son courage et comme M. Ronaldson, finissant de donner, disait d'une voix tremblante « J'ai 45, vous avez un 90, O'Donoghue, et c'est à vous de donner !» Saisissant sa compagne par le bras, elle surgit de sa cachette, renversant deux chaises sur son passage, et se précipita sur la porte, dont la clé tourna immédiatement sous sa main, en disant d'une façon beaucoup plus intelligible qu'elle ne l'avait espéré « Ne jouez plus, jeune homme, nous avons tout vu, on vous vole. Jetez vos cartes, vos chèques ne valent pas un liard. Nous pouvons témoigner l'une et l'autre de la manière dont le jeu s'est passé. » M. Ronaldson avait bondi hors de sa chaise en voyant apparaître ces dames. Il les avait regardées passer, à peu de choses près, comme si elles eussent été des spectres. M. Foscroft, qui ne les connaissait ni l'une ni l'autre, s'élança vers la porte avec le vague espoir de les empêcher de sortir. Ce qui est certain, c'est que si plus tard il pensa qu'on aurait pu soit les enfermer dans la cheminée, soit les jeter par la fenêtre, au moment même, l'idée ne lui en était pas venue. Mais, quelles qu'eussent été ses intentions, elles auraient échoué, car la porte avait cédé sous la main de Mistress Stephenson avant que Foscroft eût pu l'atteindre. M. O'Donoghue était resté immobile. En le regardant, jamais on n'aurait pu se douter qu'il arrivât quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était à l'ancienne connaissance de l'aventurier, Miss Elizabeth Peters, qu'était réservé le triomphe d'ébranler cette philosophie impassible. Retrouvant son courage à la vue de la clarté que les autres salons projetaient par la porte ouverte, les salles se vidaient assez rapidement et forçant Mistress Stephenson à faire un ou deux pas en arrière, tandis que quelques personnes entraient par curiosité, Miss Peters, les yeux fixés sur le personnage en question, prononça distinctement ces mots. « Je voudrais bien savoir, monsieur, comment il se fait que vous portiez un faux nom. Vous vous appelez Allen. Du moins, on vous appelait toujours Major Allen à Clifton. Vous vous en souvenez tout aussi bien que moi. » À l'ouïe de ces paroles, en voyant tous les yeux se tourner vers lui, l'esprit hardi de l'incomparable O'Donoghue, maintenant encore une fois redevenu Major Allen, reçut un tel choc qu'il se leva et, profitant de sa profonde connaissance des êtres du logis, disparut par une petite porte qui donnait sur un escalier dérobé. De la nuit, on ne le revit. Tel court que fut l'instant pendant lequel ces mots avaient été prononcés, il avait suffi pour attirer une si grande quantité des invités que les deux dames, encore toutes pâles et toutes tremblantes, se trouvèrent devant une véritable foule à traverser pour entrer dans les salons. Elles n'avaient maintenant qu'un désir, retrouver quelqu'un de leur société qui les aidât à se retirer d'une scène où elles avaient joué un rôle si étrange. Mais, au premier coup d'œil jeté dans la salle de bal, Mistress Stephenson s'écria « Grand Dieu, ils sont tous partis! Dans quelle frayeur doit être Frédéric de ne pas m'avoir trouvé à la maison !» Et grand fut son ravissement quand elle aperçut le général Hubert qui se dirigeait d'un pas hâtif vers l'endroit d'où s'élevaient des voix, discutant l'aventure que chacun ne comprenait et que chacun voulait expliquer. « Ah, que le ciel soit loué » s'écria-t-il en saisissant ardemment la main que la tremblante Nora étendait vers lui. « Qu'est-ce que tout ceci signifie? Où vous êtes-vous caché? Nous vous avons cherché dans tous les coins depuis une heure. Frédéric vient de repartir pour la seconde fois, voir si vous n'êtes pas rentré chez vous. »
Je me doutais bien de tout cela, répondit Mistress Stephenson. Mais pour l'amour de Dieu, ne me faites plus de questions. Emmenez-moi, cher général, emmenez-nous toutes les deux. Nous avons bien souffert ensemble. Nous nous sommes trouvés, enfermés pendant quelques heures, et témoins d'une horrible scène. Mais maintenant c'est fini, et j'en suis profondément reconnaissante à la Providence de m'avoir donné le courage d'agir comme je l'ai fait. Emmenez-nous, je vous en conjure.
Si nous partons maintenant, ma chère Nora, reprit le général, on ne peut plus intriguer par ce qu'elle venait de lui dire, mais sentant bien que ce n'était pas le moment de demander des éclaircissements, si nous partons maintenant, Frédéric va nous manquer de nouveau. Agnès est encore dans l'autre salon. Rien n'a pu la décider à quitter cette maison tant qu'elle n'avait pas la certitude que vous n'y étiez plus. Si vous vouliez consentir à aller vous asseoir tranquillement auprès d'elle pendant quelques minutes, Stephenson va revenir et je crois que cela vaudrait mieux pour vous, comme pour Miss Peters, qui, sans être d'une pâleur mortelle comme vous, Nora, a un bras que je sens trembler aussi fort que vous-même. » Et tout en parlant ainsi, le général, soutenant les deux dames dont les jambes flageolaient, leur faisait traverser le second salon qui séparait la salle de jeu de celle du bal. Mais quand ils eurent atteint la porte de celle-ci, au lieu de trouver la tranquillité qu'il leur avait offerte, ils devinrent les témoins d'une scène qui rendait tout semblant de tranquillité impossible autour d'elle. Mistress O'Donaghue était debout au milieu de la pièce, les mains jointes, sa coiffure toute défaite et le sein soulevé par des sanglots convulsifs. À côté d'elle, Miss Louisa Perkins tenait, un mouchoir sur les yeux, tandis qu'à l'exception d'un groupe silencieux occupant un sofa un peu éloigné, tous les gens ne faisant pas partie de la foule qui encombrait la salle de jeu demeuraient autour de leur hôtesse, tantôt écoutant ses lamentations, tantôt lui prodiguant des paroles d'une consolation insignifiante.
« Elle est partie! On l'a enlevée! Dieu seul sait tout et dans quel but! Où est son père? Il doit avoir les mains pleines, j'espère! » Mais pour l'amour de Dieu, qu'on aille me chercher Foscroft. Il ira. Oh, mon Dieu, où irait-il? Où l'enverrai-je? Je n'en ai pas plus l'idée que l'enfant à naître. Mais je suis sûre, comme je suis là, que c'est cet horrible homme jaune, au favori noir, qui l'a enlevé. Quelqu'un connaîtrait-il un Don Tornorino, ou Tornapino, ou enfin un nom dans ce genre? N'est-ce pas, Louisa? Une pauvre chère créature bonne à rien comme elle. Je la voyais qui valsait comme une possédée avec lui. Et quand je lui ai demandé comment il se faisait qu'il fût là, car, bonté du ciel, je ne l'avais pas invité, elle m'a répondu, la mauvaise chérie, avec sa manière si drôle. Que vous importe, maman? Il y est, cela suffit. Oh Dieu, s'il faut qu'il ne soit ni titré, ni riche, j'en mourrai, le cœur brisé, je le sens. »
Tels étaient les accents désolés que poussait l'infortunée Mistress O'Donaghue au travers d'un torrent de larmes et d'un tourbillon de soupirs. Par intervalles, elle était interrompue, mais non arrêtée, par les interjections de ses auditeurs.
« Quel malheur! Pauvre femme, c'est un vrai scandale! Je ne m'étonne pas qu'elle soit si émue. Ce qu'il y a de certain, c'est que si pareille chose était arrivée à mon enfant, je serais morte sur place. »
Et voilà les seules exclamations qui venaient interrompre l'expression de ses angoisses maternelles. Puis, pendant une pause que la malheureuse femme était forcée de faire pour se moucher, on entendit la voix de Miss Louisa Perkins qui disait:
« Madame, croyez-vous que Mathilda soit partie aussi avec un gentleman ?»«
Est-ce que je sais? Cela m'est bien égal !» répondit la mère inquiète. « Qu'est-ce que c'est que ça à côté de ma belle Patty? Et dire qu'elle était sûre d'avoir une fortune superbe! Son pauvre père me le disait encore aujourd'hui même! Oh, la cruelle enfant !»
La pauvre dame délaissée en dit tant et tant encore sur ce même ton, tantôt s'asseyant, tantôt se relevant, tantôt se jetant de tout son long sur un sofa, toujours avec la patiente Louisa à ses côtés, qu'à la fin, il n'y eut pas un individu qui ne sût que, bien décidément, s'était enfui avec un don au noir favori et que Miss Mathilda s'était enfuie aussi, soit avec son ami, soit avec quelqu'un d'autre. Il ne fallut rien moins que la persuasion de son impuissance en cette affaire pour empêcher Mistress Hubert de s'approcher de sa tante, alors réellement malheureuse. Mais sachant qu'elle ne pouvait lui être d'aucun secours, et étant elle-même en proie aux anxiétés les plus vives au sujet de sa sœur, elle resta auprès de M. et de Mme Henderson, aussi inquiet qu'elle-même, à attendre en silence le retour du général Hubert, qui les avait quittés pour entrer encore une fois dans la salle du souper et demander à tous les laquais du vestibule si l'on avait appelé les gens de Mistress Stephenson. Agnès et ses amis avaient été si anxieusement préoccupés pendant la dernière demi-heure qu'ils ne s'étaient pas aperçus de l'absence de leur hôtesse. La pauvre femme avait employé ce temps à questionner les domestiques, se convainquant de plus en plus que sa précieuse fille avait quitté la maison sans en avoir dit un mot à qui que ce fût. Et comme le don au noir favori, elle ne se le rappelait que trop bien pour être le locataire du premier dans la rue, avait aussi disparu subitement, il était parfaitement naturel de conclure qu'elle était partie avec lui. Elle fut grande, la joie d'Agnès, et aussi celle de son amie Mary, lorsqu'elles virent apparaître leurs deux sœurs après leur mystérieuse disparition. Mais la joie de M. Stephenson fut encore bien plus grande quand il revint quelques instants après, pâle, violemment ému, rapportant la terrible nouvelle qu'on n'avait pas entendu parler de sa femme à la maison. Ce fut alors que Mistress Hubert, remise de ses propres angoisses, eut désiré donner à sa tante quelques marques de sympathie, mais cette dame était engagée dans une conversation si animée avec M. Foscroft qu'il était impossible de lui dire un mot. « Non, non, Agnès !» dit Mistress Stephenson quand elle entendit Agnès proposer au général de s'approcher de la pauvre Mistress O'Donago avant de s'en aller. « Non, il ne faut pas songer à lui parler en ce moment. Ce n'est pas l'enlèvement de sa fille qui lui donne l'air terrifié que vous lui voyez. La pauvre âme, elle apprend quelque chose d'encore plus terrible. Mais où sont Lady Stephenson et les Nivette et votre chère fille ?» « Il y a longtemps qu'elles sont parties, Nora. »« Eh bien alors, pour l'amour de Dieu, allons-nous-en aussi. Nous ne sommes pas en notre place ici. »« Que vous êtes bonne de vous border à me questionner avec vos yeux, mais quoique bien fatiguée, je suis toute disposée à vous conter toutes nos aventures avant d'aller me coucher, toutefois si mon pauvre Frédéric, qui a été si effrayé, se sent la force de venir passer une heure chez vous avant de rentrer. » Tous les membres de la petite société avaient, en vérité, bien trop envie d'avoir l'explication des mystères de cette étrange soirée pour songer à leur fatigue. Ils se firent donc tous conduire à Berkeley Square, quoique cinq coups, frappés par la montre à répétition du général, les eussent avertis qu'il était bien temps de se livrer au repos. « Mais qui peut songer à se reposer ?» dit Mistress Henderson, « tant que cette incompréhensible aventure n'est pas expliquée. »